bien, écoutez, merci beaucoup d'être revenu. Même si vous n'êtes pas encore parti, vu le temps, on est quand même mieux ici à parler du patrimoine archéologique et culturel. Donc, c'est à France Desmarais que revient l'honneur donc, de présider les séances, la séance de cet après-midi, avec toujours autant d'énergie qu'est-ce qu'elle nous a montré tout à l'heure lors de sa présentation. Qui me soit aussi permis de remercier le président de séance de ce matin, Bruno Favel, qui a très bien fait son devoir, ses devoirs, c'était très bien. Voilà. Donc nous avons encore une après-midi très, très chargée, très dense. Donc je demanderai véritablement aux intervenants de vraiment rester dans la fourchette qu'il leur est impartie. Et je dis ça, mais parce que je veux aussi parler et que je veux aussi déborder. Donc voilà.
Monstre.
Bon après-midi.
Merci. Bon après-midi. J'avais oublié que ce matin, en arrivant, on m'avait demandé de remplacer au pied levé Alexandre Casironi et que j'avais dit oui. Et donc, j'ai bu un verre de vin en me disant « c'est pas grave ». Donc, plus sérieusement, je n'aurai pas l'éloquence de Bruno pour vous faire une belle introduction, mais je vais laisser parler dans le temps imparti. Je vais faire une chose, la gardienne du temps, je vous assure. Donc, je vais vous présenter Alain Desromeau, qui est directeur de recherche au CNRS, à l'UMR Orient et Méditerranée à Ivry, et directeur de fouilles archéologiques, qui nous fera une présentation sur le patrimoine syriaque du Proche-Orient, danger, études, destruction et conservation, qui est un sujet très important parce que dans la région, on parle parfois souvent d'un seul patrimoine et il y en a plusieurs qui sont en danger, dont le patrimoine syriaque. À vous.
Merci. Merci, Madame la Présidente. Je suis très honoré que ce soit vous qui soyez là. Comme on dit en syriaque, Taoudi Sagi. Les cultures syriaques héritières chrétiennes à partir du IIIe siècle des antiques cultures araméennes de Syrie-Mésopotamie sont constitutives des civilisations du Proche et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, la Syrie, le Liban, la Turquie, l'Irak, l'Iran, l'Égypte, et ils sont allés jusqu'en Inde, au Kerala, en Asie centrale et en Chine. Mais je m'occupe que du Moyen-Orient aujourd'hui. N'ayant jamais gouverné aucun État, les communautés syriaques ont vécu toutes les péripéties des divers régimes, empires, royaumes, émirats, byzantins, arabes, turcs, kurdes, persans, qui sont succédés dans ce Moyen-Orient diversifié. Participant à leur place, j'insiste, à la vie des sociétés auxquelles elles appartenaient, y contribuant par leur apport culturel, scientifique, médical, astronomique, littéraire, philosophique, théologique, tout en maintenant leur longue tradition liturgique classique. Leur patrimoine est constitué de manuscrits, de monuments architecturaux, d'inscriptions et de solides traditions orales. Il a fait l'objet de nombreux travaux scientifiques depuis le XVIe siècle, la France y étant illustrée, et je n'hésite pas à le dire, poursuivant jusqu'aujourd'hui une œuvre d'étude, de mise en valeur culturelle et en ces moments difficiles de protection urgente. Je vais vous en donner la preuve. Le patrimoine manuscrit est considérable et bien daté, avec de très nombreuses précisions, des scribes, des dates. Une caractéristique que les spécialistes des manuscrits grecs nous envient d'ailleurs. Le plus ancien manuscrit syriaque daté connu a été écrit à Édesse, actuelle Urfa, en Turquie de l'Est, en 411 après Jésus-Christ. Et on copie encore des manuscrits au début du XXe siècle. Sur d'anciens manuscrits, les copistes nous ont conservé des textes qui, sans cela, auraient été perdus et que l'on peut lire dans des copies du XXe siècle. Donc, il ne faut pas croire que, parce que c'est des manuscrits récents, que c'est moins important que des manuscrits datés du 8e. Il y en a beaucoup. Du 7e. Le premier exemple est celui de la bibliothèque patriarcale syriaque catholique du couvent Charfé au Mont Liban. Elle abrite une des plus importantes collections de, vous le voyez sur la, en jaune, hein, sur, de manuscrits syriaques et arabes chrétiens du Proche-Orient, environ 2200 manuscrits. rassemblés entre le XVIIIe et le XXe siècle par plusieurs érudits, proviennent principalement de Syrie, d'Irak, de Turquie, du Liban. Et la collection est le résultat d'une histoire riche et du travail assidu de personnalités syriennes et libanaises, intellectuelles et spirituelles de premier plan, tel le patriarche Rahmani, profondément lié à la culture française. Ces manuscrits sont en majorité conservés dans leurs reliures anciennes, comme vous le voyez, ce qui est évidemment un trésor pour la recherche historique. Certains contiennent des enluminures. Celle-ci est datée de 1495. Elle porte le nom de l'artiste. C'est rare, les signatures de miniatures. Jacques Darbeau, pour tout vous dire, qui a été écrit dans la région, fait dans la région de Diyarbakır, dont on parle beaucoup en Turquie actuellement. On y découvre aussi des trésors inattendus. Ce manuscrit du XVIIIe siècle, relié à Mardin, contenait des folios de parchemin datables du 8e siècle qui sont révélés appartenir au début perdus d'un important manuscrit du couvent syriaque orthodoxe Saint-Marc de Jérusalem. C'est le passage du livre du prophète Isaïe dans la version dite syro-exemplaire de la Bible, la tradition de la cinquième colonne d'Origène. Une grande découverte aussi de l'étude menée est celle des structures des reliures syriaques qui, jusqu'à présent, ne figuraient pas dans les catégories techniques de l'histoire des reliures du monde occidental ou oriental ancienne. Cette catégorie figure désormais aux côtés des reliures byzantines, arméniennes, islamiques, etc. L'inventaire systématique s'en poursuit, c'est récent, ça, et bénéficie même à l'étude des reliures de la Bibliothèque nationale de France, où on découvre qu'il y avait des reliures syriaques. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on en a refait sous Napoléon III, vous savez, et puis François Ier, évidemment. En plus des manuscrits, le patriarcat possède un patrimoine écrit considérable, je passe, mais c'est riche. Des chartes, des correspondances, des bulles papales, des firmans arabes et turcs, etc. Alors, il y a un double travail est effectué à Charfé. D'abord, une étude des contenus des textes, évidemment, et de la matière des manuscrits, papier, encre, mise en page, reliure. Le catalogage, très détaillé, avec description des manuscrits syriaques et garchouni. Le garchouni, c'est les manuscrits de textes arabes écrits avec des caractères syriaques. A été confié par le patriarche à une équipe de chercheurs du CNRS, Françoise Briquel-Châtenay et moi-même, et Muriel Debier et André Bingeli de l'Institut de recherche et d'histoire des textes du CNRS. Et on a agrégé des jeunes chercheurs, ainsi que François Vinour, spécialiste des reliures orientales anciennes. Travaille beaucoup à la BNF, mais ailleurs aussi. Le travail d'étude est mené en collaboration avec les partenaires locaux que vous avez vus tout à l'heure, Mgr Djibril Dib en soutane et Youssef Derham. On a fait plusieurs missions depuis 2006 et la première tranche de travail est finie. Le second travail porte justement sur le besoin de conservation et de restauration. Déjà, parallèlement au catalogage, est effectuée la numérisation des fonds, évidemment. Le matériel et l'information ont été subventionnés par une association de la région PACA dans le cadre d'une coopération euro-méditerranéenne. Et depuis 2015, commence à se mettre en place une opération de restauration. Les images montrent combien cela est nécessaire. Le ministère français de la Culture a déjà subventionné la première étape, celle du constat d'État en juillet 2015, et va subventionner la seconde l'été prochain, à partir de l'été prochain. Merci Bruno Favel et France Quémaret qui ont suivi cette affaire. Et j'en suis vraiment très, très reconnaissant. Vous voyez l'importance de ce travail. Alors, une subvention du Sénat, d'ailleurs, est également prévue. Et le budget est d'une certaine ampleur. La Société d'études syriaques, à laquelle j'appartiens, conseille scientifiquement l'opération et soutient une, avec, vraiment avec opiniâtreté, une coopération franco-libanaise, qui n'est pas toujours facile. On ne parle pas la même langue, enfin, on n'est pas dans le même pays. Il faut travailler ensemble, il faut se causer, il faut avancer, il faut faire de la diplomatie. Voilà. J'arrête sur Charfé, parce que sinon je vais me faire disputer, et puis la présidente va être...
Elle est redoutable, j'ai entendu.
Alors,
dire.
Les fonds de Charfé sont menacés par les vers, c'est clair, et les dégradations du temps. Mais d'autres, vous le savez, que trop, sont dramatiquement agressés par les barbares. Et les premiers à réagir ont été des acteurs locaux. J'insiste beaucoup. Dans la dévastation de Mossoul, les Dominicains avaient su évacuer personne et manuscrits, à Karakoche, puis, fuyant Karakoche, ils les amenaient à Erbil. La collection du couvent dominicain Notre-Dame de l'Horloge est maintenant numérisée grâce au dynamisme du père Najib. Et plusieurs manuscrits ont fait l'objet de facsimilés comme celui-là, qui ont été montrés dans le cadre de la très belle exposition organisée aux Archives nationales l'an passé, intitulée « Grandes heures des manuscrits d'Irak ». La collection se trouve à Erbil, dans des locaux exigus. Elle aurait besoin d'un plan de restauration et de conservation. Et l'aide de la Bibliothèque nationale de France a été sollicitée par moi-même, par Charles. Bon, il est évident... J'insiste, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne froisserai personne, mais il est évident que les restaurations de manuscrits, surtout quand il y a des miniatures en plus, bon, ne peuvent s'effectuer qu'avec le concours de restaurateurs chevronnés. Une longue expérience, des professionnels, et puis avec une volonté de formation du personnel local, en l'occurrence irakien. Et là, problème de diplomatie, problème... Il faut coordonner, il faut travailler. Et ça, c'est ça que j'attendrais, moi, des autorités françaises, qu'il y ait quelqu'un qui sache coordonner ça au niveau technique. Alors, c'est d'autant plus important que de nombreuses importantes collections de manuscrits sont en très grand danger. Dans une région où plusieurs ont déjà été détruites, à Mossoul et dans la plaine dévastée par les fanatiques abrutis. C'est le cas de la collection syriaque catholique de Mar Benham. Voilà, le monastère construit avant le XIIe siècle est un joyau de l'architecture irakienne du XIIe siècle, du XIIIe siècle, pardon, mentionné par le géographe arabe Yakout. Le plus grand historien de l'Irak chrétien, Jean-Maurice Fiet, affirmait qu'aucune étude complète de l'architecture islamique de la période atabègue ne pouvait être faite sans l'étude de ce monument chrétien. Intégration. Art chrétien musulman, synthèse. Sa dévastation par les fous est une atteinte à l'image de l'humanité. Et la collection de manuscrits qui s'y trouvait a officiellement disparu. Une numérisation rapide, simplement, y avait été faite avant sa capture. Et elle montre l'importance archéologique et textuelle de la collection. Ici, le 492, c'est des discours théologiques, pour tout vous dire, d'un monsieur qui s'appelait Barkiki, un poète du XIe siècle, qui fut mafrien de l'église syro-orthodoxe en Irak, qui s'est converti à l'islam et qui est revenu au christianisme. Il faut faire de l'histoire dans la conservation. C'est pas neutre, tout ça. Et là, on a très peu de manuscrits de ce monsieur Barkiki, et ils sont très intéressants, très émouvants d'ailleurs, très émouvants. Il pleure sur lui-même, etc. Enfin, Et alors, si quelques restes de la collection, qui restent encore à inventorier, il n'y a aucun catalogue, aucun inventaire, on va le faire à partir des photos, ont pu être mis à l'abri, qui sait, peut-être, Inch'Allah, il faudra, dès la libération, s'en occuper sérieusement. Les rongeurs, les champignons, ouais, c'est caché. Dans le nord du... Alors, je passe à autre chose, je vais vous montrer quand même plusieurs choses, parce qu'il faut balayer ce patrimoine. Dans le nord du Kurdistan d'Irak, Al-Kosh a échappé à la guerre. Mais l'antique couvent d'Er Rabban Hormizd, accroché à la montagne, a été ces dernières années soumis à des restaurations techniquement inappropriées. bétonnage des terrasses, peinture non microporeuse sur les murs et les inscriptions, qui provoquent déjà des délitements des bas-reliefs. Attendez. Ah ben non, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Là encore, des responsables locaux ont su, je crois qu'il y a un évêque et un prêtre libanais, et ont fait venir un Italien, ils ont su prendre l'initiative de faire venir des restaurateurs compétents pour réparer les dégâts. Il faut le faire vite. C'est à Alcoche qu'est en grand danger aussi la collection de Notre-Dame des Semences, très célèbre. Fameuse bibliothèque à laquelle tous les syriacisants du monde rêvent d'accéder. Deux inventaires sommaires au début du XXe siècle ayant fait connaître. Elle représente l'essentiel des textes du patrimoine écrit de toute l'Église syro-orientale. Et la collection a pu être évacuée d'Alcoche, ça je sais, mais dans quelles conditions se trouve-t-elle cachée ? Humidité, insectes, rats, etc. Pour toutes ces collections que j'ai évoquées, je ne reviens pas là-dessus, il faut faire un vaste plan de conservation avec les autorités, je dirais, en collaboration entre la France et l'Irak. Alors, la France peut déjà s'honorer de soutenir la sauvegarde du patrimoine manuscrit en Irak. L'été dernier, en effet, sollicité par le responsable des manuscrits du patriarcat syriaque orthodoxe, qui se trouve à Damas, et suite à la réunion organisée par le ministère de la Culture, merci encore Bruno, vous êtes vraiment formidable. Les archives nationales ont subventionné l'opération de numérisation des manuscrits de Marmata, le monastère où est enterré le célèbre prélat et écrivain du XIIIe siècle, Bar Ebraüs, grand historien, par une équipe de la communauté elle-même, qui a pu acquérir grâce à cela un matériel moderne adéquat, et l'opération s'est bien déroulée, je peux vous le dire, et le compte-rendu en a été fait, les photos seront, quelques mois, faut du temps indexé, mises à la disposition des chercheurs. Et alors, il faudra poursuivre le soutien aux responsables des manuscrits syriaques orthodoxes, mais j'ai encore une demi-heure, qui se préoccupe de la numérisation et de la conservation du grand fonds d'Amasène, actuellement mis en sécurité dans un lieu discret. Je voudrais quand même vous montrer trois exemples maintenant de sauvegarde monumentale. Dans le Kurdistan d'Irak, à Bazian, sur la route de Souleymaniya à Kirkouk, c'est un lieu que connaît très très bien Loïc, puisqu'il y a travaillé, il est spécialiste de la céramique de ce lieu. L'antique Karka de Betzlor, célèbre par ses martyrs syro-orientaux sous les Sassanides, une mission archéologique co-dirigée par Madame Narmin Ali Amin, qui est une kurde, professeure kurde de l'université d'Erbil, et Vincent Desroches de l'UMR Orient-Méditerranée. Ils ont fouillé et restauré une église syro-orientale du IXe siècle. Je cite ce travail important sans le détailler. Il participe de l'étude de la conservation du patrimoine archéologique dans la région, et les autorités du musée et des fouilles sont extrêmement accueillants à la collaboration avec l'équipe. Il y a un beau sauvetage. Alors, enfin, on prépare un vaste programme d'archéologie chrétienne du Kurdistan, pour lequel je ne cesse de persécuter Vincent Michel. Depuis septembre 2012, je viens à autre chose, a été placé sous la direction de Justine Gaborit, une chercheuse associée à mon UMR, un programme de coopération scientifique et culturelle avec la municipalité de Nusa Ibin, dans le sud-est de la Turquie, l'antique ville de Nizib, située juste à la frontière turco-syrienne dont Nusa Ibin contrôle aujourd'hui le poste de passage avec la ville syrienne de Kamishli. ces villes de contact entre l'Empire romain et l'Empire perse depuis toujours. La municipalité de Nusaybin, alors c'est la ville d'Ephrem, Ephrem de Nisibe, le plus grand poète du IVe siècle, en langue syriaque, qu'on utilise toujours aujourd'hui dans les textes syriaques. La municipalité de Nusaybin, une équipe kurde de jeunes conseillers, à parité, hommes et femmes, on peut en prendre des leçons, était dirigée par Madame Ayşe Gökhan. Leur programme sociopolitique fut dès le début délibérément démocratique et laïque, plurilinguistique, pluriculturel, plurireligieux. Il s'adressait à tous, kurdes, arabes, turcs, chrétiens, musulmans, yézidis, dans un respect de toutes les cultures et de toutes les religions. Et ils ont fait un grand centre culturel, bâti dans cet esprit, lieu de colloque très suivi par la population sur l'histoire de Nisib dans toutes ses composantes, et nous avons contribué, nous avons participé, fait des communications scientifiques. Et pour répondre à la demande de la mairie de mise en valeur de son patrimoine culturel auprès de toute la population, une équipe franco-turque a réalisé une étude architecturale complète d'un monument exceptionnel et remarquable, bien connu des historiens et des archéologues du Moyen-Orient, qui n'avait pas fait jusqu'à présent l'objet de relevés précis, détaillés, et dont le contexte archéologique restait inexploré. Le bâtiment, daté par une inscription grecque de 359 après Jésus-Christ, semble le plus ancien monument chrétien du Moyen-Orient, naturellement après la maison, la fameuse maison chrétienne de Doura au Repos, dont on a parlé. La chronologie de ces structures du IVe au XIXe siècle pose de difficiles problèmes archéologiques, passionnants et beaux. Une équipe franco-turque a été mise en place en concertation par Madame la maire Ayşe Gökhan et Justine Gaborit. Elle comprend Abdulhaman Oruç, archéologue municipal, Khalil Al-Hamid et Bertrand Riba, tous les deux dessinateurs, l'un turc kurde et l'autre français, Gérard Thébault, géomètre expert, Ephrem Issa Youssif, historien et traducteur, Denis Fessel, du Collège de France, du CNRS et l'Académie des inscriptions hébraïques, je crois, correspondant, épigraphiste pour le grec et moi-même pour le syriaque. Et de son côté, une équipe archéologique pilotée par l'Université de Mardin réalisait des fouilles sur le terrain environnant. Et le but est l'étude historique du bâtiment et sa valorisation culturelle. Voilà l'équipe. Le plan précis, complètement revu, des relevés de détails, des études comparatives, des présentations suggestives de l'histoire du bâtiment ont été réalisées. Et une importante inscription syriaque qui a fait mon bonheur a été découverte. Elle est très importante parce qu'elle parle d'un membre de l'école de Nisib au VIe siècle et c'est un scoop. Peu de gens l'ont vu, profitez-en, regardez bien. Voilà. Elle est toute déchiffrée. Alors, c'est l'étude du bâtiment prend place dans un programme d'ensemble et la municipalité, c'est important, a décidé de réaliser dans ce secteur un parc multiculturel comprenant l'église et la mosquée voisine de Zayn al-Abidine qui abrite un important mausolée puisqu'il s'agit du fils d'Al-Hussein, excusez du peu, échappé au massacre de Karbala et considéré comme le quatrième imam alide. Le relevé de la mosquée a été effectué par l'équipe, son étude archéologique est en cours et ça va être mis en valeur dans le parc multiculturel qui est réalisé en collaboration avec le musée de Mardin. Et pour lequel les membres de l'équipe ont été sollicités. Puis on va faire un livre scientifique et un livre grand public qui est déjà écrit. Il est écrit en français, qui va être traduit en cours de traduction en turc et en kurde. Et alors, j'ai plus le temps, c'est terrifiant.
Ils vont croire que j'ai pas d'autorité si vous dépassez trop.
Donc voilà. Alors, je voulais vous parler du Tour Abdin. Tant pis, je peux plus. Mais
Allez-y.
Ah bon. Alors, ce travail, en étroite collaboration avec les responsables locaux, n'est pas une étude ponctuelle isolée. J'insiste beaucoup, c'est des programmes d'ensemble aussi. Ça prend place dans le programme d'études et de sauvegarde du patrimoine du Tour Abdin, donc en Turquie de l'Est, voyez. Alors, les nouveaux occupants du monastère Mar Aoghin, sur le flanc sud du mont Isla, qui domine la plaine de l'Euphrate, ont demandé à l'équipe qui travaille à Nisib avec Justine Gabori de procéder à un relevé complet des bâtiments et à un examen avant d'envisager tous travaux de restauration. C'est complexe, hein, parce que c'est comme ça. Bon. Et il s'y trouve de nombreuses inscriptions syriaques, là aussi, qui font mon délice. Le Tour Abdin, où des dizaines de villages conservent encore des témoins de très beaux édifices anciens depuis le 5e siècle. Hein, c'est des édifices 5e, 6e, 8e. Hein, demande une étude archéologique et historique d'ensemble et de détail. Menacé par la situation conflictuelle actuelle dans l'est de la Turquie, il est menacé aussi dans sa conservation patrimoniale par l'absence de chercheurs et d'étudiants locaux dans un contexte d'émigration massive des populations. Et parmi les quelques familles qui y demeurent, c'est superbe, il y a des jeunes filles qui se forment à l'archéologie et à l'histoire, mais ont du mal à se faire reconnaître comme interlocutrices et protagonistes responsables dans certains milieux, tant chrétiens que musulmans, hein, où la place des femmes reste problématique, vous le devinez. Alors nous, on essaye de faire un travail de formation avec elles et de leur faire le travail avec nous en collaboration étroite. Hein, elles participent vraiment au relevé des inscriptions. Hein, c'est elles qui en dessinaient, pas moi. Je contrôle. Bon. Voilà. Donc on travaille avec des jeunes pour faire ce travail. Alors, là, ça aurait été important que je ne vous... Enfin, ça aurait été triste que je ne vous le montre pas. C'est un lieu emblématique de coopération efficace pour sauver un patrimoine ancien en voie de dégradation. On peut faire de belles choses, même dans la situation actuelle. C'est le monastère Mar Gabriel. À la demande de l'archevêque du Tour Abdin, l'exceptionnelle mosaïque de la voûte du sanctuaire, datée de 512 sous l'empereur Anastase, a été réparé et nettoyé sous la direction de Patrick Blanc, directeur de l'atelier de restauration et de conservation de mosaïques du musée de l'Arles antique. L'impulsion a été donnée par une subvention du... Encore vous ? C'est vrai. Du département des affaires européennes et internationales à la direction générale des patrimoines du ministère de la Culture. Oui, ça a démarré comme ça réellement. Et ça a permis ensuite qu'un financement soit pris en charge par la Fondation Léventis, qui est une grande fondation au Proche-Orient, avec l'appui scientifique de ma société d'études syriaques. Voilà. Alors, il y a des étudiants et des chercheurs doctorants et post-doctorants qui ont participé à une étude très, très fine. Et le résultat de la restauration, le voici. C'est-à-dire, on ne l'avait jamais vu comme ça. C'est un peu comme quand on a restauré le plafond de la Sixtine, on a tout nettoyé. Et surtout, on a recollé, parce que la mosaïque de voûte, elle dégringolait par terre. Il fallait intervenir. Eh bien, l'intervention, merci, a réussi, ça y est, vous pouvez aller la voir. Essayez. Je vous invite à aller visiter, faire du tourisme là-bas, ça vaut la peine. Vous voyez sur l'image, là, tout à fait en bas, à gauche, la moitié avant restauration, l'autre moitié après restauration. C'est quand même significatif et spectaculaire. Voilà. Je pense... Si c'est ça. Voilà. Non, je voulais dire quelque chose sur le patrimoine ce patrimoine de l'humanité qu'il faut... dont j'ai la conviction qu'il faut évidemment sauver et mettre en valeur. Et je ne pouvais pas ne pas évoquer la Syrie. C'est un enjeu majeur du patrimoine humain. Le nombre de sites est considérable. Et voilà, je ne présente que simplement que ce qui relève de la compétence de mon laboratoire. Donc, vous voyez, on travaille là-haut, là, dans le massif calcaire, à la frontière d'ailleurs de la Turquie, mais du côté syrien. Et alors, la mission syro-française d'épigraphie syriaque, dirigée par mesdames Widad Khoury, de Damas, et Françoise Briquel-Châtonnet, qui dirige mon unité de recherche là, à Ivry, a pu heureusement effectuer un très grand nombre avant la guerre civile. On a relevé presque toutes les inscriptions syriaques, et dans les villes mortes, qui sont célèbres, entre Idlib et Halep. Et la Direction générale des Antiquités et Musées de Syrie nous a demandé, en outre, de relever, d'étudier toutes les inscriptions syriaques de Syrie. C'est un très beau corpus. C'est ainsi qu'on a pu relever cette très belle mosaïque découverte à Nabra, près de Djirablus, qui révèle la plus ancienne inscription syriaque datée du tout début du 5e siècle, 407. L'équipe syro-française va publier le corpus des inscriptions syriaques de Syrie, dont elle a fait le relevé dans la collection RIS, recueil des inscriptions syriaques, publié par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Chaque inscription a fait l'objet de calques, de dessins, de photos, d'estampages, de moulages, et sera publiée dans son contexte archéologique. Car, voilà, important, pas seulement l'épigraphie, mais le contexte archéologique. En même temps, donc, la partie syrienne de la mission travaille à l'examen de ce contexte, et deux volumes sont déjà en préparation. Ils sont consacrés à ces magnifiques bâtiments. Je ne sais pas si Derouné est encore debout. C'est impossible, c'est la frontière là-haut. Et c'est en préparation, là, les volumes Widad Khoury avec Bertrand Riba. Donc, c'est vraiment franco-syrien. Voilà, Kherbet Tizine, c'est superbe, magnifique. Bon, j'achève. Il est clair qu'en Syrie, la menace sur le patrimoine est réellement considérable et que plusieurs joyaux du patrimoine mondial y ont déjà été détruits, vous savez. Mais il me semble très important de souligner que si tous les sites ne sont pas protégés, ça, c'est impossible vu leur grand nombre, la communauté scientifique des archéologues syriens a réussi à sortir l'enjeu majeur de la sauvegarde du patrimoine de leur pays des rivalités politiques, réellement. C'est pas une figure de style. La conviction affirmée par la plupart de nos collègues syriens, quelles que soient par ailleurs leurs idées politiques, et ils ont le droit d'avoir leur position par rapport au régime et au contre-régime, est que le patrimoine syrien n'est ni celui du gouvernement, ni celui de l'opposition. Il appartient à tout le monde. D'ailleurs, je puis témoigner que des citoyens syriens non professionnels de l'histoire et de l'archéologie que nous avions employés au cours de nos missions se sont profondément, des amis finalement, se sont profondément impliqués dans la recherche des vestiges et ont toujours continué à se soucier de leur préservation toute l'année, et on reçoit des informations de leur part et ils surveillent. Ah, c'est, faut le faire, hein. Ils risquent leur vie. En tout cas, nos collègues syriens se dévouent pour leur patrimoine, persuadé que celui-ci est important pour l'avenir du pays tout entier. Et je ne veux ici que me faire l'écho de leurs souhaits. Pour eux, il est essentiel que se maintiennent les relations scientifiques internationales. C'est eux qui le demandent, hein. Que les échanges se poursuivent, que les bibliothèques leur soient disponibles. On a fermé la bibliothèque de l'IFPO à Damas. La France n'a pas à être fière de ça. Que colloques et publications continuent. En travaillant ensemble avec eux pour continuer à étudier et préserver leur patrimoine, nous répondrons à l'enjeu majeur que celui-ci représente pour la paix et l'ouverture culturelle. Ça, ce sont de bien grands mots, c'est une belle phrase. Mais on aura compris qu'il recouvre dans notre travail scientifique même des problèmes politiques, diplomatiques, religieux, délicats, ceux de notre implication dans les relations franco-syriennes, franco-turques, turco-kurde, dans la formation des chercheurs locaux, jeunes et moins jeunes, dans les communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes, dans leur pays d'Orient sur place et dans leur émigration en Europe. Taoudi Sagui. Merci beaucoup.
Merci. Merci, professeur Deromo. Vous avez ruiné ma réputation qui dit que je suis dure, donc maintenant personne ne va me croire. Mais vous nous avez fait une super présentation. Les couleurs des photos que vous avez, moi, je peux les voir beaucoup mieux. Elles sont magnifiques. Sur l'écran, elles sont un peu éteintes, mais c'était magnifique. Et vous m'avez fait penser à plusieurs choses. On pourra en parler peut-être à la période des questions. Les manuscrits. Moi, j'ai été impliquée avec les manuscrits de Tombouctou. Et il y a énormément de parallèles, de choses à faire et à ne pas faire. On sait ce qu'on doit faire, donc les plans d'intervention sont super importants à ce stade-ci et on devrait vous entendre, donc je suis contente que vous en ayez parlé. Et quand vous avez parlé de restauration, c'est bien, ça nous donne espoir et ça nous fera parler tout à l'heure avec la présentation de Bruno, notamment de Palmyre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et pensées, mais on devrait très certainement en discuter. Donc merci beaucoup, c'était très riche. Et maintenant je vais inviter Mme Béatrice André Salvini. C'est l'avantage de présider la séance. J'ai le plaisir et l'honneur de la présenter. Donc, conservateur général honoraire du patrimoine, ancienne directrice du département des antiquités orientales au Musée du Louvre, qui va nous parler d'une présentation dont le titre est magnifique, « Ruines et permanence ». C'est très poétique, j'adore ça, j'ai très hâte de vous entendre.
J'étais très laconique dans ce titre. J'aurais pu mettre au moins que j'allais parler de l'Irak et de la Syrie, qui sont mes domaines de compétences scientifiques. Depuis l'Antiquité, chaque combat, chaque invasion, chaque situation de crise politique et économique a engendré le vandalisme sous forme de pillage et de destruction. Le phénomène d'anéantissement des témoins matériels du passé qui touche actuellement notamment l'Irak et la Syrie prend une grande résonance par le biais des moyens de communication modernes qui l'accompagnent et en raison de l'idéologie qui l'engendre. Les actes de vandalisme infligés aux monuments, à tout le patrimoine culturel, s'accompagnent de crimes perpétrés ou accompagnent les crimes perpétrés envers des vies humaines. La dispersion, la destruction du patrimoine matériel s'apparente d'ailleurs par son étendue ou par la violence des méthodes employées par ce qu'on peut appeler ces bourreaux aux tristes réalités de l'exode et de la dispersion des populations locales et à celle des actes de terrorisme récents perpétrés contre les personnes et qui touchent autant l'Occident que l'Orient. Si l'association entre ces deux formes de massacre est immédiate, c'est parce que l'on peut comparer à un assassinat le fait de priver un peuple de son histoire, en éradiquant son passé, ses racines culturelles, que cela soit accompli délibérément ou par ignorance, ou encore par le résultat de ce que l'on nomme les dommages collatéraux de la guerre. Les œuvres et les monuments symboliques représentent la pérennité d'une civilisation et leur disparition ébranle la conscience historique et la certitude d'appartenir à une grande et ancienne culture. Et c'est pour cette raison que, par exemple, la réouverture du musée de Bagdad le 1er mars 2015, conçue comme une réponse courageuse à la destruction quelques jours avant des grands sites emblématiques du nord de l'Irak par Daesh, a provoqué une grande fierté parmi la population qui en était privée depuis de nombreuses années. Alors aujourd'hui, je vais parler en tant qu'historienne de cette grande civilisation et je voudrais commencer par essayer de replacer la situation actuelle dans l'histoire culturelle ancienne de l'Irak et de la Syrie. Les leçons du passé permettent, dans une certaine mesure, d'envisager ce que peut être l'avenir au conditionnel toutefois. Cette partie de l'Orient, aux frontières actuelles artificielles, qui d'ailleurs ne sont pas respectées actuellement dans le conflit, a livré les principales inventions de la civilisation qui furent déterminées par les limites géographiques et les ressources naturelles. Mais elle a donné également, et cela se sait moins, des règles pour conserver les principes de la civilisation. Depuis la haute antiquité, de nombreux États formés de populations diversifiées, d'une mosaïque de communautés ethniques et confessionnelles, s'y sont développés, succédés ou affrontés. Ils sont cependant unis dans la fortune critique de leur histoire par les valeurs communes qui ont permis leur longévité et qui ont été transmises pendant des millénaires au-delà des changements de pouvoir par l'éducation, par l'enseignement, dont les méthodes formèrent les racines de la culture de l'Orient et de l'Occident. Ces lois du monde civilisé furent établies et existaient depuis la naissance de l'État de l'histoire en Mésopotamie au 4e millénaire avant Jésus-Christ, lorsque furent fondées les premières villes autour d'un pouvoir organisé qui permit l'invention de l'écriture pour conserver la mémoire des faits et des événements, leur archivage et leur transmission. Ces principes consistaient essentiellement à maintenir ou à rétablir l'ordre moral, à fonder ou à restaurer les édifices religieux et officiels, ainsi que les ouvrages de défense et du génie civil, à entretenir les voies d'eau nécessaires à l'économie du pays. Il incombait au pouvoir en place de maintenir l'ordre social pour ne pas faire retomber le pays dans la situation du chaos primordial. La leçon qui fut tirée et largement diffusée pendant plus de 2000 ans, par oral et par écrit, de l'ascension et de la chute du premier empire de l'histoire, l'empire mésopotamien d'Akkad au 3e millénaire avant notre ère, cette leçon est que l'irrespect des règles, c'est-à-dire une désobéissance aux lois de l'univers et une perte de concentration sur ce qui est essentiel au profit de la démesure, entraîne une perturbation de l'ordre établi. L'alternance de périodes de fortune et de périodes sombres reposant sur ce principe, sur ce modèle, sous-tend toute l'histoire de la littérature de la Mésopotamie, de la littérature cunéiforme inventée par les Sumériens vers 3300 et qui durera jusqu'au premier siècle de notre ère, influençant fortement notre histoire. L'Irak comme la Syrie, terre de grandes cultures ininterrompues depuis l'Antiquité, n'ont guère cessé de connaître les ruines. Dans l'ancienne Mésopotamie, la philosophie des ruines faisait partie de la vie quotidienne. Dans le sud, où la matière première principale était le limon déposé par les eaux du Tigre et de l'Euphrate, toutes les constructions et même les murailles défensives étaient construites en argile, parfois cuite et liée au bitume, et la campagne était parsemée de collines de ruines arrondies par le temps, recouvrant les constructions de terre cuite, de terre crue, érodées ou détruites par la main de l'homme. Ce sont ces mêmes collines artificielles qui parsèment le paysage aujourd'hui et qui constituent les lieux des fouilles archéologiques. Le genre littéraire de la lamentation sur la ruine et le pillage des vignes, des temples et des empires faisait d'ailleurs partie des cinq disciplines maîtresses de la sagesse mésopotamienne, considérées comme d'origine inspirée. Cette dualité constante, destruction-reconstruction, s'exprime notamment dans le mythe du déluge universel qui est né dans cette civilisation, bien qu'on retrouve ensuite dans de nombreuses cultures. Le fléau envoyé par le monde divin était destiné à détruire toute création humaine, mais le plus sage des dieux sauva l'humanité pour qu'elle bâtisse un monde nouveau. Cette détermination à toujours reconstruire, à ne jamais lâcher prise, est restée un trait de caractère constant des peuples de l'Orient. Et elle se manifeste actuellement dans la volonté des directions des antiquités de ces pays meurtris de ne pas céder au désespoir, mais de lutter pour préserver et reconstruire leur patrimoine. En effet, pour revenir à la période récente, cela fait 35 ans que le patrimoine culturel de l'Irak est en danger et la liste des dommages, vols et pertes et pillages est vaste. Les journées noires du mois d'avril 2003, au premier jour de la guerre d'Irak, qui ont vu le musée archéologique de Bagdad vandalisé par une population en proie à la panique, ont frappé les esprits. Les œuvres principales, François Desmarais le disait, ont été retrouvées au cours des années suivantes, certaines d'entre elles très endommagées. On parle de plus de 15 000 objets disparus dans les musées, dont 6 000 ont été retrouvés au prix d'un travail difficile et de longue haleine de la part du département des antiquités d'Irak et de la communauté internationale, et notamment de l'ICOM. Hélas, ces chiffres sont aléatoires et sont trop bas, malheureusement, car une grande partie de ce matériel n'était pas inventorié On en a parlé ce matin, l'importance de l'inventaire. Il était conservé dans les réserves sans classification suffisante pour qu'il puisse être identifié avec certitude. Et les disparitions d'œuvres à grande échelle ont commencé en fait en Irak en 1980, et j'insiste sur cette date, lors du conflit entre l'Irak et l'Iran, suivi en 1990-91 par la guerre du Golfe qui entraîna l'embargo imposé à la population jusqu'à l'éclatement de la guerre d'Irak en avril 2003. Durant l'embargo, Bagdad et les provinces manquaient de tout. Il n'y avait aucun moyen de restaurer les œuvres ou d'assurer leur bonne conservation et leur sécurité. Les œuvres des musées irakiens ont été à plusieurs reprises mises en caisse pour tenter de les protéger. Il s'agissait souvent de caisses de fortune, les objets étaient enveloppés hâtivement dans du coton. Dans l'urgence des événements, ces caisses ont été envoyées dans différents lieux, souvent sans liste ou après un inventaire sommaire. Certaines d'entre elles ont été perdues, d'autres volées, d'autres ont été retrouvées, mais les objets fragiles qu'elles contenaient, soumis à de mauvaises conditions de conservation et surtout à des conditions climatiques variables, ont souffert, parfois sans espoir qu'ils puissent être sauvés. Les objets restés à Bagdad ou qui sont revenus pendant les années 1990 ont subi également de mauvaises conditions de conservation. Pourtant, malgré tous ces obstacles, une grande activité de sauvetage n'a jamais cessé de se dérouler au musée de Bagdad, comme dans d'autres musées d'Irak, dans des conditions épouvantables. À ces malheurs se sont ajoutés les pillages et la destruction systématique de plusieurs milliers de sites archéologiques et de nombreuses bibliothèques qui ont été détruites par le feu. Ainsi, la bibliothèque du Collège des Beaux-Arts de l'Université de Bagdad a connu en novembre 2009 la destruction de plus de 70 000 livres, manuscrits, cartes, photographies et documents historiques, un délit perpétré par des vandales ne cherchant pas à voler, mais à détruire. La situation s'est aggravée depuis juin 2014, après la proclamation de l'État islamique, et elle concerne donc désormais toutes les périodes de l'histoire antique, médiévale ou moderne. L'arasement des monuments du Moyen-Âge islamique, autant que les vestiges de l'Antiquité mésopotamienne, a fait l'objet des premières vidéos de médiatisation par leurs destructeurs, avant-scène du saccage du musée de Mossoul en février 2015, ainsi que des grandes capitales de l'antique Assyrie, puis de Hatra, ville qui fut fondée par les successeurs d'Alexandre le Grand et qui devint, il faut quand même le souligner, la première capitale arabe au début du 1er siècle. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, pays de vieille civilisation qui possède un patrimoine comparable en richesse et en importance, démontrant de grandes affinités culturelles à certaines époques et selon les régions avec son voisin d'au-delà de l'Euphrate, l'Irak, la situation est aussi dramatique, bien que plus récente. Au désastre de la guerre civile qui sévit depuis mars 2011 et qui touche dramatiquement la vie quotidienne, s'ajoute celui de la perte d'un héritage intellectuel et artistique en raison du dommage infligé aux sites et aux monuments historiques et de l'étendue des fouilles clandestines dont on a déjà beaucoup parlé. Des sites archéologiques importants, Palmyre, Apamé, Hama, Alep, Mari, Ebla, je les cite un peu en vrac, et des monuments insignes de la culture, ont souffert des combats, tandis que les pillages ont endommagé d'autres sites et détruit tout espoir d'y reprendre une fouille stratigraphique. Et cela est un point important à souligner, parce que cela détruit également l'avenir. Des biens culturels ont été transformés en lieux de combat ou de refuge ou ont été rasés. Une partie des musées ont vu leurs bâtiments endommagés par des bombes, ont subi des dégradations ou des vols importants. Et l'organisation de l'État islamique a provoqué une aggravation désastreuse des ravages menés par des gangs armés sur les sites. Dans des circonstances aussi difficiles, la Direction générale des Antiquités et des Musées, dirigée par une équipe vraiment de scientifiques, et notamment son directeur, le docteur Mamoun Abdoulkarim, a toujours continué à assurer ses responsabilités grâce à la détermination de ses employés, mettant de côté la politique, comme l'a déjà dit Alain Desremaux, pour défendre leur patrimoine qui doit constituer un facteur d'unité pour tous les Syriens. Certains d'entre eux risquent leur vie pour lui avec des moyens limités mais efficaces. Au-delà des fonctionnaires, des spécialistes en archéologie, artistes, architectes, des réseaux de volontaires se sont mobilisés dans tout le pays et ont uni leurs efforts dans un but commun, fournissant un renfort de sécurité pour protéger les sites archéologiques autant qu'il est possible de le faire et pour défendre les musées, avec l'aide de l'ICOM, et France a cité l'exemple du musée des mosaïques de Marat. Je dois ajouter que de nombreuses, pratiquement la totalité, des principales collections des musées de province ont été rapatriées à Damas et sont en lieu sûr. Alors, malgré cette situation qui semble apocalyptique, qui est apocalyptique, une archéologie nouvelle d'après-guerre est déjà en cours. Et je voudrais déjà ici donner une note d'espoir pour l'avenir. D'abord parce que le sol et le sous-sol de l'Irak, comme de la Syrie, présentent et contiennent d'innombrables témoignages matériels de leur histoire, dont l'empreinte ne peut être effacée, même par des pillages et des ravages intensifs. C'est dans la région de Mossoum que les premières explorations archéologiques en Orient eut lieu, car au XIXe siècle, les milieux cultivés de l'Occident, pétris de la Bible et des auteurs classiques, qui avaient préservé le souvenir déformé mais vivant de Ninive et de Babylone, avaient conscience que là se trouvait le berceau de la civilisation. Or, plus d'un siècle et demi de fouilles ont à peine entamé les collines ou tags de ruines qui parsèment cette région comme autant de signaux ou de promesses. On peut même constater que le conflit qui touche l'Irak et la Syrie a récemment ouvert des nouvelles régions à l'exploration archéologique. Je ne fais pas une défense de la guerre, entendez-moi bien, qui donne lieu à des découvertes historiques sur des terrains jusqu'alors vierges, comme le Kurdistan d'Irak, resté hors de portée de toute mission étrangère pendant de longues années, les longues années de la dictature en Irak, mais région qui est liée historiquement aux civilisations du sud de l'Irak et de la Syrie intérieure. Depuis 2011, 6 fouilles françaises et plusieurs autres fouilles étrangères ont été ouvertes dans cette région, qui fait partie du cœur de l'ancienne Assyrie, suivant ainsi les pas des pionniers de l'archéologie. Les résultats des missions se complètent pour retracer une histoire vraiment novatrice de l'histoire de la Mésopotamie du Nord et de ses marges frontalières entre le néolithique et le début de la période islamique. Nous avions perdu depuis longtemps le contact avec la recherche vivante sur la civilisation mésopotamienne en Irak pour des raisons politiques du temps de la dictature de Saddam Hussein. Nous l'avions retrouvé en partie en Syrie orientale, puis elle a été perdue de nouveau en 2011, au début de la crise syrienne. Les fouilles de Mésopotamie du Nord, du Kurdistan d'Irak actuel, non seulement permettent de renouer avec cette recherche vivante, mais elles apportent également une documentation matérielle et écrite inédite qui jette une autre lumière sur l'extension des cultures les plus anciennes de la région, renouvelant une vision jusqu'alors centrée sur le sud mésopotamien. Les frontières culturelles de la Mésopotamie s'étendirent bien au-delà de celles dictées par la nature ou par les ambitions politiques des multiples dynasties locales ou étrangères qui s'y succédèrent. Et l'héritage intellectuel immatériel de cette civilisation qui a donné naissance à l'histoire est de toute façon hors de portée de la barbarie. Très tôt, l'écriture cunéiforme fut exportée par les scribes et son usage partagé établit dans tout l'Orient ancien un fond de culture commun que chaque peuple développa selon sa propre mémoire et ses aspirations. La littérature babylonienne connut une grande diffusion parallèlement à ses méthodes d'anciennement et aux sciences. Je prends pour exemple l'épopée de Gilgamesh qui résume ce que toute personne cultivée connaît de la littérature mésopotamienne. Et la diffusion de ce chef-d'œuvre fut immense et les ultimes territoires géographiques qu'elle conquit de la Grèce à l'Inde rendent hommage aux lettrés de Babylone. Or, en 2011, au moment de la réouverture du Kurdistan d'Irak à l'archéologie, un fragment inédit de cette épopée, écrit sur une tablette d'argile, réapparut. Il provenait de fouilles clandestines menées dans la région, mais il fut acquis par le musée de Souleymanié, au Kurdistan d'Irak. Donc, ce fragment livre un passage marquant de l'épisode où Gilgamesh et son ami Enkidu affrontent la forêt des cèdres pour tuer le monstre Umbaba, qui en est le gardien et qui représente le chaos. D'autre part, nous sommes loin d'avoir fini d'exploiter sur le plan scientifique toute la documentation matérielle et toutes les sources écrites déjà découvertes. Or, pour préserver le patrimoine et en conserver la mémoire, il faut le documenter et le publier. C'est vraiment important. La contribution de fond des historiens et archéologues à la sauvegarde et à la reconstruction du patrimoine consiste donc essentiellement à rassembler la documentation existante sur les sites archéologiques et les monuments, à partir des archives anciennes et récentes sur tout support, afin de simplifier l'identification et l'enregistrement des pièces disparues et la documentation des œuvres conservées. La réflexion porte également sur le traitement et l'interprétation de ces pièces d'archives et sur la façon de transmettre ensuite ces données aux pays concernés en donnant les moyens aux étudiants et aux chercheurs locaux de les compléter et de les utiliser eux-mêmes par l'enseignement, par la formation, sur place ou ailleurs. Le ministère des Affaires étrangères, par le biais de la commission des fouilles, a récemment débloqué des crédits particuliers pour cette opération, de même que pour accélérer la publication des résultats des missions françaises en Syrie et pour accorder des bourses d'études à de jeunes chercheurs syriens pour ce faire. Une formation à l'archéologie de conflit ou de guerre est en train de se mettre en place. Elle consiste notamment à analyser les données qui peuvent être rassemblées concernant les sites endommagés afin de comprendre la nature et l'étendue des dégradations et des pillages à partir des photos satellites disponibles ou de tout autre document qui nous parvient. L'inventaire, la restauration, la numérisation des collections des musées et du résultat des fouilles archéologiques et leur publication, j'insiste, sont les tâches essentielles à la conservation des biens culturels et à la diffusion de la connaissance. La formation des étudiants, qui sont les futurs cadres des pays en crise, est essentielle, naturellement. Mais je crois que l'accueil de nos collègues des universités et des musées est également un élément essentiel de l'aide à apporter. Il permet de maintenir un bon niveau intellectuel et scientifique. En effet, le maintien de l'accès aux moyens de la recherche est fondamental, car les cadres universitaires, archéologues et conservateurs des pays en crise n'ont souvent plus les outils ni les clés pour maintenir une institution ou mener une recherche dans de bonnes conditions, parce que leurs modèles et leurs infrastructures ont disparu. Ces moyens éducatifs et documentaires portent et porteront des fruits dès maintenant et dans l'avenir. Les initiatives et les moyens commencent à se multiplier actuellement à la demande de la Syrie et de l'Irak pour essayer de préserver ce qui reste du patrimoine culturel et de réparer la mémoire de ce qui est détruit en vue de l'après-guerre. La reprise de Palmyre sur Daesh commence à multiplier ce phénomène. Certains projets sont classiques, d'autres plus visionnaires. Ce foisonnement montre l'intérêt porté par le monde entier aux richesses de la Syrie et de l'Irak. Il faut cependant qu'il soit bien maîtrisé et coordonné. Sinon, la situation risque d'être difficile à gérer par les directions des antiquités et des scientifiques des pays concernés et en raison d'intérêts dépassant le domaine culturel. Le choix de ce qu'il convient de faire passe en tout cas par un état des lieux qui commence à être fait, notamment avec la technique des drones, dont parlait Alberto Viale ce matin. Et si nous devons donc nous résigner à la perte inéluctable de nombreux monuments anciens qui avaient été ressuscités par les fouilles du XIXe et du XXe siècle, une reconstruction, qu'elle soit virtuelle ou accomplie à partir des matériaux d'origine récupérables lorsque cela sera possible, devra prendre en compte la charge émotive et historique de la mémoire qu'elle devra porter pour l'éducation des générations futures. En effet, si la mémoire des lieux et des civilisations et leur survivance réside, comme dans l'Antiquité, dans la transmission d'un héritage par l'étude et l'éducation, la documentation écrite et en images constitue la garantie nécessaire à l'étude d'un site, d'un monument et d'un objet. Mais cette mémoire réside également dans une référence esthétique ou émotionnelle au niveau personnel collectif, et en ce sens, les notions de patrimoine matériel et immatériel se rapprochent.
Merci Madame André Salvini. C'est une magnifique présentation qui nous permet de prendre la mesure de l'importance des patrimoines irakiens et syriens qui sont en danger aujourd'hui. Votre mention de l'immatériel m'a fait quand même penser, parce qu'on l'a vu au Mali, lorsque les extrémistes empêchent les gens de danser, de chanter, de faire les exercices qui rendent vivant leur patrimoine immatériel, ce patrimoine est menacé parce qu'après une génération. Et moi, ce qui m'inquiète en Syrie aujourd'hui, c'est que tous les déplacés dans les camps, les femmes ne peuvent pas cuisiner, il y a toute une tradition culinaire qui se perd, il y a énormément de traditions familiales. Donc tout le patrimoine immatériel syrien est aussi grandement en péril. Et en parlant du musée de Bagdad, ça m'a quand même fait penser. C'est un des écueils du déplacement des collections. Quand les Américains ont pris les archives juives, par exemple, pour les sauvegarder, momentanément, c'était en 2003, je vous rappelle, elles sont toujours à la librairie du Congrès, parce que la responsabilité de retourner un objet lorsque la situation le permet est excessivement aléatoire, et il y a une responsabilité de se dire si je les mets au pays aujourd'hui, et l'Irak les réclame à corps et à cri, donc elles devraient retourner, mais il y a un doute sur le fait qu'elles seraient ou pas préservées. Donc il y a énormément de dilemmes moraux pour les responsables du patrimoine. C'est une lourde tâche. Maintenant, Bruno, sans transition, Monsieur Favel, chef du département des affaires européennes et internationales de la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture.
Est-ce qu'on peut se déstabiliser?
Non, non, je peux...
Non, c'est juste pousser un petit peu, parce que j'ai une chaise en plus. Attends.
Ah, vous êtes deux?
Oui, parce qu'il y a un petit problème technique.
Excusez-moi, il y a mon sac. Non, comme ça? Pendant que vous réglez le problème technique, j'ai présenté Bruno, mais il ne se présente plus parce qu'il nous a présidé ce matin. Et on a entendu dans les autres présentations à quel point son rôle pour soutenir les collègues nationaux et internationaux dans la préservation des patrimoines et souvent des patrimoines un peu négligés et oubliés. Oui. C'est très important. Il s'assure de nous rappeler à l'ordre lorsqu'on oublie des pans entiers de l'histoire. À vous, M. Favel.
Merci pour ce gentil accueil. En fait, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la Syrie et l'Irak, je vais me livrer à certaines considérations philosophiques et techniques. Pour vous expliquer que l'histoire de la prise de conscience des conflits n'est pas la même que la prise de conscience des cataclysmes ou la prise de conscience des fléaux, comme Jean Delumeau l'explique dans l'histoire des fléaux, des maladies. La guerre est rarement intégrée, alors que le cataclysme ou la maladie est décrit depuis la plus haute antiquité. Voltaire décrit de façon horrifiée le tsunami qui ravagea Lisbonne en 1766, et ses contemporains, la cour de Louis XV, pendant nombreuses années en parla. Victor Hugo cria « Guerre aux démolisseurs » quand on a commencé à détruire Paris en 1830. Il a même écrit Notre-Dame de Paris pour que les monuments historiques français ne soient pas tout simplement rasés. Et depuis une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, on va dire depuis les années 60, 50, il y a une longue prise de conscience et de considération que, après la reconstruction de la Seconde Guerre mondiale de toutes les villes européennes, eh bien, il fallait préserver le patrimoine, le conserver, le restaurer et le valoriser, parce que justement la guerre était un facteur, tout comme le cataclysme était un facteur tout à fait important, et que nature et culture étaient antagonistes, mais parfois arrivaient au même résultat. C'est-à-dire que je rappelle quand même que le cataclysme, nous le subissons, tandis que la guerre, nous la provoquons. Et nous sommes acteurs dans la guerre. Donc nous sommes confrontés à deux formes de destruction que je mets à peu près au même niveau, parce que je dirais qu'un tremblement de terre est tout aussi meurtrier qu'une guerre. 366 000 morts En Haïti, le 26 janvier 2010, lorsque Port-au-Prince a été détruite. Et à peu près, on en est à 200 000 morts en Syrie en ce moment, à peu près, si on compte les morts. On compte plus facilement les morts, d'ailleurs, que le bien de trafic illicite des biens culturels, parce qu'on arrive à peu près des choses. Alors, mon propos, il y aura plusieurs considérations. Je vais vous rappeler un petit peu historiquement comment cette prise de conscience s'est faite. On parlera de la Syrie et de l'Irak et quelques considérations sur la reconstruction la déconstruction. Et puis je me poserai une question aussi sur les cultures mortes. Parce que moi, je suis persuadé qu'une grande partie de cette... Je ne vais pas être très pessimiste aujourd'hui, mais je le suis un peu. Une grande partie de ce terrain connaîtra le sort de cultures mortes. Je vous rappelle qu'une des premières choses que les djihadistes ont fait pour la culture syrienne, pour anéantir la culture syrienne, c'était en avril 2015, c'était de détruire, ou 2014, je ne sais plus, de détruire Deir ez-Zor, le mausolée des Arméniens, génocide des Arméniens perpétré par les Ottomans, et la destruction de l'église byzantine. Donc c'est quand même très symbolique d'un acte perpétré. Cette région a connu les grandes invasions mongoles, qui ont détruit Bagdad, qui ont détruit des pans entiers de cités. Donc c'est une terre de, je dirais, à la fois d'espoir, comme l'a dit Béatrice, avec beaucoup de conviction, mais c'est aussi une terre de désespoir, c'est-à-dire c'est une terre de chaos. Et depuis de milliers d'années, alors vous, qui êtes archéologue ou scientifique ou spéléologiste, là, c'est pas une vision romantique que je propose à la Hubert Robert avec des ruines de Palmyre comme il l'a fait, ou comme Casals l'a fait, le peintre de Casals qu'on montre en ce moment à Tours dans une très belle rétrospective, puisque sous la Révolution française, il a fait un voyage à Palmyre et il a peint des toiles de Palmyre et de ruines. Mais néanmoins, une grande partie de cette région connaîtra ce que la Bosnie-Herzégovine connaît ou ce que la Pologne de l'Est connaît dans des villages où il n'y a plus que des cimetières juifs en déshérence et dont plus personne ne sait quoi faire, ou des synagogues qu'on a transformées en épiceries, ou encore des mosquées en Lituanie de l'Est dont on ne sait pas quoi faire, une mosquée tatare notamment. Donc cette prise de considération, elle se fait à partir, je dirais, des années 50, quand l'UNESCO se rend compte qu'il faut sauver Borobudur. Borobudur, c'est en Indonésie, c'est un temple bouddhiste, et une grande campagne de presse se fait, et on confie, le directeur général de l'époque de l'UNESCO confie à l'École française d'Extrême-Orient le soin de sauver Borobudur, et Borobudur sera restauré pendant une vingtaine d'années. Il y aura un comité Borobudur qui va permettre à Borobudur d'être sauvé de la destruction. C'est un site similaire, pas très loin de celui de Prambanan, qui est un site hindouiste. Donc l'Indonésie est un des premiers pays, je dirais, à bénéficier de la prise de conscience universelle de la communauté internationale scientifique archéologiste pour aider justement à éviter que ce chef-d'œuvre du Xe siècle, ou même d'avant, je ne sais plus exactement, ne soit pas complètement annihilé. Dans les années 60, on va plus loin. On va éviter le cataclysme, on va éviter le chaos, et on va déplacer les temples d'Abou Simbel. C'est-à-dire que je vous rappelle que la Grande Nubiade est une campagne voulue par André Malraux et Christiane Desroches-Noblecourt, une de vos anciennes collègues, qui a, je dirais, permis de faire en sorte que ces temples ne soient noyés lors de la construction du barrage d'Assouan. Donc là, on est vraiment dans une prise en compte. Et là encore, le Louvre a joué un rôle très important. Mais le Louvre n'avait pas la même configuration qu'actuellement. C'était tout à fait différent. Et c'était le département des Antiquités égyptiennes qui a mené ce combat avec Christiane Desroches-Noblecourt. Dans les années 60, toujours, les inondations de Florence et qui font à peu près 600 morts dans les... Oui, 600 morts. Les rivières débordent et d'un seul coup, Florence est submergée parce qu'on n'y avait pas fait les travaux qui s'imposaient. Laisse à penser que l'être humain doit faire quelque chose, d'où la Convention de Florence que les architectes connaissent bien, que les archéologues connaissent très très bien. Dans les années 70, Venise s'enfonce dans la lagune. Donc là encore, on est obligé aussi de travailler là-dessus pour faire en sorte que l'être humain soit réactif par rapport aux éléments. Dans les années 91, c'est la première fois, et c'est pour ça que je vais commencer pour moi, et je vais vous montrer des photos, on va faire défiler des photos qui ne sont pas forcément de la Syrie d'Irak, vous allez mieux comprendre. On va les passer petit à petit. Le Cambodge avait connu dans les années 30 une longue restauration, je dirais, monumentale due à l'école française d'Extrême-Orient, avec tout d'ailleurs les excès qu'impose la recréation d'un État par une puissance, puisque le protectorat était, si vous voulez, sous la tutelle de la Troisième République, qui a fait un Cambodge, je dirais, idéal. Les monuments par Anastilose ont été restaurés d'une certaine façon. Mais globalement, encore a été sauvé de l'oubli, encore n'a jamais été, je dirais, abandonné. Sauf qu'à partir de 1970, le pays sombre dans un génocide qui va faire 3 millions de morts sur une population de 8 millions de personnes. Et la plupart des conservateurs cambodgiens, les archives sont détruites. La plupart des monuments sont abandonnés, laissés à l'abandon. Et dans les années 95, quand on revient sur le site, après les accords de Paris, on va remonter complètement un temple qui s'appelle le Bapuan jusqu'en 2011. C'est un jeune architecte qui est mort malheureusement depuis, qui a remonté ce Bapuan étage par étage. Si je vous parle de 1991, c'est que 1991, il y a les accords de Paris. Aux accords de Paris, François Mitterrand et Ali Alatas, à l'époque premier ministre ou président de l'Indonésie, je ne sais plus. J'étais pourtant dans la salle, mais je ne m'en souviens pas du titre exact. Ont, pour la première fois, permis de doter la communauté internationale dans un accord de la reconstruction d'un État par la culture et le patrimoine. C'est la première fois qu'on a une mention précise qu'on va reconstruire un État avec un volet patrimonial. Et là, l'école française d'Extrême-Orient devient une sorte de, je dirais, centre de ressources. Elle ne peut plus jouer le même rôle qu'elle a joué sous la Troisième République avec les rois du Cambodge. Et on va dire que la communauté internationale, avec un secrétariat confié à l'UNESCO et une coprésidence franco-japonaise, va permettre à chaque État d'adopter un monument pour le restaurer de fond en comble. C'est ce qui continue à se faire au Cambodge depuis 1991. Et la conférence de Tokyo, auquel j'ai participé en 1993, nous a permis de codifier très strictement ce que devait faire l'UNESCO dans cette affaire, c'est-à-dire assurer les réunions du secrétariat et de permettre deux fois par an, en juin et en décembre, d'avoir deux plénières pour que les scientifiques restituent aux politiques l'état d'avancement de la reconstruction et de la reconstitution des temples d'Angkor. Et Angkor, ainsi, a été sauvé de l'oubli, a été complètement, déminé et nous a permis de redémarrer sur une base qui permet d'ailleurs d'espérer, c'est la note d'optimisme de mon discours, une solution pour Palmyre. Je vous rappelle qu'il y a un CIC Irak et un CIC de type Angkor, mais qui ne fonctionne pas, de revitaliser ce CIC pour faire qu'une fois la paix retrouvée, la communauté internationale travaille ensemble et ne se livre pas à une compétition systématique. Il n'y a pas de compétition à Angkor entre les équipes, parce qu'elles sont soigneusement encadrées. Si on ne fait pas la même chose en Syrie et en Irak, on aura une compétition de chaque pays. Chaque pays se précipitera, les Russes... Alors on vous dit qu'effectivement, les Allemands, les Italiens n'ont pas fermé leur centre. C'est vrai. Mais je vous rappelle quand même que les directeurs sont à Beyrouth. Mais les centres ne sont pas fermés, mais les directeurs sont quand même à Beyrouth. Donc ne soyons pas naïfs. Si les institutions type UNESCO et organisations non gouvernementales type ICOM ou autres ne se livrent pas un minimum de coordination, c'est pas comme je lis partout, un peu partout, aux États-nations, toujours de tout coordonner. C'est aussi à la communauté internationale de s'approprier, sur la base de ce que demandera la Syrie, ce qu'a fait le Cambodge, sur la base de ce que demandera l'Irak, un minimum de coordination. C'est pour ça que je vous ai passé les photos de ce site emblématique d'Angkor. Le deuxième aspect de la prise de conscience de la communauté internationale, après Angkor, c'est la Bosnie, pont de Mostar. Vous savez qu'une guerre fratricide a vraiment ravagé la Bosnie-Herzégovine entre 1993. Paradoxalement, c'est d'ailleurs le dernier pays à être en guerre, la Bosnie. Et ça a été le dernier à signer l'accord de paix, puisque les trois communautés se sont livrées encouragé d'ailleurs par Belgrade, à une guerre épouvantable, et la communauté internationale aussi. Là encore, dans les accords de Dayton en 1995, sur le modèle des accords de Paris de 1991, l'UNESCO a confié à un historien d'art que certains d'entre vous ont connu, le professeur Léon Pressuire, la rédaction des accords de Dayton sous l'angle patrimonial et culturel, en prévoyant la reconstruction d'un État patrimonial. Avec pour objectif principal la réconciliation par les communautés autour du patrimoine. Et c'est la première fois où, au Conseil de l'Europe et à l'UNESCO, on a parlé de réconciliation nationale par le patrimoine. C'est-à-dire que les Bosniaques ont dû restaurer des églises, les Serbes ont dû restaurer des mosquées, et ça a été fait. Ça a été fait. Vous dire que ça a été fait de bonne grâce, non, certainement pas. Mais au moins, on a arrêté de détruire les monuments emblématiques de cette riche contrée qui avait été occupée par les Autrichiens, d'abord par les Ottomans et ensuite par les Autrichiens, de façon à ce que chaque communauté se sente dépositaire du patrimoine de l'autre. On n'est plus dans de l'universalité, mais on est quand même là encore dans une prise de conscience qu'autour de la guerre civile, il est important de restructurer le patrimoine et de le développer. Et je dois dire que la première personne, d'ailleurs, quand il y a eu les attentats de Paris, à m'écrire, ça a été mon collègue bosniaque, Edirne. J'étais très surpris. Je pensais que les Belges, les Italiens, ou je sais pas qui m'écrirait. Pas du tout, c'est mon collègue bosniaque qui m'a écrit. Peut-être que les années de siège à Sarajevo avaient laissé quelques traces. Par la suite, les guerres, on va passer vite puisque Philippe Marquis va nous présenter, vous voyez des images du Bouddha de Bamiyan. On rentre dans autre chose. On voit plus, on sort des guerres traditionnelles ou des ethnocides traditionnels et on passe à une guerre similaire à celle de maintenant, c'est-à-dire à un conflit nihiliste qui a pour objectif de détruire systématiquement le patrimoine d'Afghanistan, c'est-à-dire, et surtout le patrimoine d'Afghanistan pré-islamique. Ce patrimoine, d'ailleurs, avait subi des dommages antérieurement. Quelques siècles avant, on avait enlevé les visages du Bouddha homme et du Bouddha femme. Et le fait de dynamiter, alors que la communauté internationale, y compris la mosquée El-Azhar, qui est la mosquée la plus importante au niveau des mosquées de l'islam pour certains musulmans sunnites, et qui est très respecté aussi par certains chiites, n'a pas été prise en compte par les talibans, et la délégation de l'UNESCO qui souhaitait voir les talibans a dû rebrousser chemin, puisque les talibans n'ont pas voulu les recevoir, et ont dynamité immédiatement, en mettant soigneusement en scène d'ailleurs le dynamitage, qui nous rapproche d'ailleurs de la mise en scène de ce qui se passe en ce moment en Syrie et en Irak, où je pense qu'il y a dû certainement avoir des interconnexions entre ces gens-là. Donc, mais Philippe Marquis nous reparlera plus amplement, puisqu'il connaît très très bien cette chose et ce type de patrimoine, nous parlera de l'Afghanistan. En Iran, on a été confronté ensuite à tout autre chose, à la destruction, malheureusement, d'une cité de la route de la soie, la cité de Bam, qui a été détruite par un tremblement de terre. Peu de temps après son inauguration, elle avait été complètement restaurée par les autorités iraniennes qui avaient décidé de respecter, les mollahs avaient décidé, Ayatollah avait décidé de respecter cette cité. Malheureusement, la nature a décidé du contraire et il a fallu une dizaine d'années de travaux pour que la cité soit reconstruite, que Crater de l'université de Grenoble, pardon, de l'école d'architecture de Grenoble puisse travailler sur ce patrimoine et en prenne soin pour proposer aux gens de la cité des nouveaux logements avec des prototypes et autres. Bon, à l'heure actuelle, la cité a été reconstruite, mais à chaque cataclysme ou chaque guerre arrivait un nouveau cataclysme et est arrivé le cataclysme de la Louisiane, de Katrina, où là, je dois dire qu'il y a eu quelque chose de terrifiant. C'est un exemple terrifiant de mauvaise gouvernance. C'est-à-dire qu'on a laissé des pans entiers de population qu'on a abandonnés à la Nouvelle-Orléans, sans se soucier de ce qu'elles devenaient. On les a laissés se noyer, on les a laissés mourir, sans vraiment vouloir absolument faire quoi que ce soit pour elles. Et après, on a fait une mise en scène à l'américaine, sauf que l'État de Louisiane nous a demandé de l'aide. C'est la première fois qu'un État demande à un autre État une aide. Vous savez qu'il y a des liens historiques entre la France et la Louisiane, mais là, les Louisianais nous ont demandé de l'aide. Et on a pu, je dois dire, faire des expertises, puisque là, il y a eu vraiment un loupé. Les Américains ne voulaient pas qu'on travaille sur leur terrain. On a simplement pu reconstituer un quartier entier, qui est le quartier de Trémé, qui est un quartier historique. C'est pas le quartier que vous voyez tout le temps sur les dépliants, c'est un autre quartier. Trémé, c'est un quartier où la plupart des musiciens de jazz sont nés, où ont pu s'entraîner. Beaucoup ne sont pas retournés, certains sont morts de chagrin ou pendant la rupture des digues. Je rappelle que ce n'est pas l'ouragan Katrina qui a tué les gens dans leur maison, c'est la rupture des digues non entretenues par le gouverneur local et par l'État fédéral qui ne faisait strictement rien malgré les multiples mises en garde. Un jour, on pensait que ces digues du XVIIIe siècle allaient s'engouffrer dans la ville et c'est ce qui s'est passé. Donc là, le gouvernement américain porte une large part de responsabilité, tout comme ce qui s'est passé à la flotte. Je sais plus où, dans une commune pas très loin d'ici, vers La Rochelle, il y a eu un truc terrifiant. Ben, c'est de la mauvaise gouvernance. Ça, c'est un exemple que je voulais vous montrer. On arrive à la destruction d'Haïti. On va passer assez rapidement. C'était pour vous montrer un petit peu ce qui reste de la cathédrale de Port-au-Prince, après le séisme, le palais présidentiel complètement écroulé. Et puis là, notre action, nous, ça a été de... Un autre exemple de notre type d'action, c'est un retour mémoriel. Une équipe de pompiers français a trouvé au sein du palais gouvernemental une toile de laitière. Cette toile de laitière avait déjà fait l'objet d'une restauration au sein du laboratoire C2RMF des musées de France. Il a été renvoyé à Paris, ensuite à Versailles, où pendant 2 ans, s'est occupé de cette toile qu'on a rendue. On voit d'ailleurs le président Martelly en bas. On voit Frédéric Mitterrand en haut, qui s'était déplacé spécialement en Haïti pour constater l'état de dommage de la capitale de Port-au-Prince. Et quand 2 ans plus tard, en 2013, donc sous Aurélie Filippetti, la toile a été rendue, le président Martelly était très content de récupérer ça. Je vous raconte une autre chose, c'est que 70% de Port-au-Prince est toujours en ruine et qu'aucune restauration n'est prévue à l'heure actuelle, puisque l'aide internationale s'est évaporée dans la nature. Ça, c'est voilà. Ça, c'est un temple frontalier entre le Cambodge et l'Inca de guerre. Un autre conflit terrifiant qui a été stoppé par la paix, ce qui fait dire que la stabilité de la paix est tout à fait importante, c'est la destruction des Mali, au Mali, des manuscrits et de la bibliothèque Ahmed Baba de Tombouctou. Ces manuscrits ont été cachés par les communautés locales, d'où l'importance dans la résilience aussi du rôle des communautés locales, qui ont caché au péril de leur vie ces manuscrits, tout comme ils l'ont fait en Syrie, en Irak. Là encore, destruction d'un mausolée par les fanatiques. Voilà, on arrive après à notre sujet, et je vais un petit peu maintenant développer sur la Syrie et l'Irak très rapidement. Il me reste combien ? 5 minutes ? Pour vous dire que, tout simplement, au départ, ce qui me frappe, moi, c'est qu'en Syrie, en Irak, c'est toute la chaîne du patrimoine qui est éradiquée par Daesh, que ce soit au niveau local, étatique ou universel, que le patrimoine soit grec, antique, assyrien, babylonien, islamique, médiéval ou du 19e siècle ou du 20e siècle. Le patrimoine est systématiquement détruit, donc c'est une volonté nihiliste, c'est un véritable carnage. Donc il faut remonter aux périodes historiques des Mongols ou à l'époque des nazis pour retrouver une volonté de détruire le patrimoine, les populations qui y vivent et les professionnels qui s'en occupent. En témoigne le massacre de Khaled el-Assad, le directeur des antiquités de Palmyre. C'est un monsieur qui entretenait Palmyre depuis de nombreuses années, qui était connu par la communauté scientifique, et pas seulement scientifique d'ailleurs, et qui a été massacré dans des conditions épouvantables. Et je dois dire que là, pour une fois, les parlementaires italiens, je dis italiens, du Parlement européen ont proposé une motion de faire de l'année 2016, fin 2016-2017, une année Khaled el-Assad. C'est Madame Costa, députée italienne, qui a proposé cela, et cette motion a été retenue en souvenir de cet homme. Donc les destructions perpétrées en Syrie et en Irak constituent des crimes culturels contre l'humanité, voire des crimes de guerre. Depuis 3 ans, vous entendez que la communauté ne fait strictement rien. C'est pas tout à fait vrai. Il y a un tas de mesures qui sont prises en considération, qui sont prises de façon incitative. Mais l'ego personnel là-dedans est dilué dans le fait que le traitement entre l'Irak et la Syrie n'est pas le même. Vous savez que la Syrie n'a pas de relation diplomatique avec la France et n'en a plus après avoir connu une lune de miel très importante. Là, il n'y a pas grand monde qui dénonçait ça à ce moment-là. Moi, j'étais par contre ceux qui me méfiaient, qui dénonçaient cette lune de miel un peu trop grande. Ce qui me fait dire que maintenant, la libération de Palmyre par les troupes, quelles qu'elles soient, de ceux qui ne détruisent pas le patrimoine, contrairement à ce qu'on raconte par rapport à Daesh, sont quand même plus encourageantes que de laisser un patrimoine être détruit dans les mains de Daesh. Donc ce qui complique les choses, c'est effectivement la fermeture de l'Institut français de Damas, à la différence des instituts italiens ou allemands. Et je dois dire que la situation, par contre, est tout à fait normale avec l'Irak, où on travaille avec deux entités. Une entité à Bagdad qui ne contrôle plus grand-chose du territoire et une entité au Kurdistan autonome irakien, qui, accueille toutes les minorités chrétiennes, turkmènes, yézidis, dont on parle absolument pas et dont tout le monde se fiche, parce que c'est un patrimoine immatériel. Ce sont des gens qui descendent des Zoroastriens et qui ont leur propre culture et leur propre, je dirais, croyance, et qui n'ont pas un patrimoine monumental très développé, malheureusement, mais qui ont un riche patrimoine imaginaire et, je dirais, religieux. Et ça, c'est quand même important de rappeler l'existence des yézidis. Et ça, grâce quand même à une prise de conscience du gouvernement d'Erbil, on arrive quand même à financer des missions d'accueil d'étudiants d'Erbil et autres. Le gouvernement de Bagdad étant tenu par des chiites, il est plus compliqué de discuter avec ce gouvernement dans la mesure où le gouvernement est très respectueux du patrimoine, puisqu'il a réouvert quand même à Bagdad le musée, comme vous l'avez mentionné. Hein, on n'est pas du tout dans une terre de barbarie, bien au contraire. Mais disons qu'on est plus dans un repli identitaire local à Bagdad qu'une ouverture très importante sur le monde international. Tous les sites du patrimoine mondial syrien et irakien, à l'exception d'Erbil, de Babylone et de Babylone, ont été mis sur la liste du patrimoine mondial en péril. Nous l'avons demandé donc pour pouvoir avoir la communauté internationale à nos côtés. Je rappelle que la France avait aidé en Syrie un dossier de patrimoine mondial, les villages antiques du nord de la Syrie, avec la colonne de Simon Stylite il y a quelques années. On a travaillé beaucoup avec des associations pour aider la rédaction de ce dossier. Quand il est passé en 2011, malheureusement, nous n'avions plus de relation avec la Syrie, ce que je regrette. Donc le combat qui se fait au niveau universel se fait grâce, je dirais, la multiplication des appels d'Irina Bokova, qui n'est absolument pas complaisante avec ce qui se passe, et en nous a permis d'ailleurs de faire plusieurs colloques, dont un très important franco-irakien, en quel Béatrice a participé à ses câlins des rumeaux d'ailleurs, pour justement appeler la communauté internationale à réagir. C'est à déboucher quand même ce petit colloque de septembre, à l'adoption, le 11 février 2015, de la résolution. Ce matin, vous avez parlé de la résolution 2199, qui a été signée obligatoirement par tous les États qui font partie de l'Organisation des Nations Unies et qui oblige les États, membres de cette Organisation des Nations Unies, de rendre chaque année des comptes, au mois de juin, des mesures qu'elles ont prises pour réellement lutter contre le trafic illicite des biens culturels. C'est le paragraphe 15 à 17. Et je dois dire que nous, on est obligés de le faire et on le fait en collaboration, les autorités françaises, avec plusieurs ministères. Le président de la République française, vous l'avez vu ce matin, a confié au président du Louvre un rapport bilan qui vous a été présenté, qui met en œuvre à la fois des aspects de lutte contre le trafic illicite, d'appui institutionnel aux États qui subissent un carnage culturel et les mesures à prendre en matière de formation et de numérisation, d'exposition, encore de renforcement de la capacité institutionnelle de la communauté internationale européenne avec les 27 États membres et les 47 États membres du Conseil de l'Europe, et de se doter d'outils qui doivent permettre d'aller plus avant. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que, pour finir, parce que j'ai peut-être pas le temps de tout vous dire ce que j'avais projet de vous dire, il y a le renforcement de la législation française, ça a été évoqué, la numérisation des manuscrits. Au-delà des bonnes intentions, des paroles énoncées, il faut agir, et c'est pourquoi que l'action individuelle et l'action des scientifiques et techniciens et juristes et autres est importante pour sortir du carcan, je dirais, purement juridico-administratif, qui parfois peut donner l'illusion, alors que ce n'est pas toujours le cas, à des incompréhensions de part et d'autre. Donc, si on a des demandes parfois précises des différents gouvernements en termes de formation. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous entendez, vous avez connaissance de cas individuels d'Irakiens, mais surtout de Syriens, en déshérence dans les universités, dans les spécialités d'archéologie qui ont des problèmes, pour que nous puissions les aider. Nous voulons, avec l'UNESCO, développer une méthodologie post-conflit et nous avons commencé à réfléchir à voir comment, depuis le bureau de Phnom Penh d'ailleurs, de voir comment le modèle cambodgien ou le modèle des accords de Dayton en Bosnie-Herzégovine écrit en 1995 pourrait justement contribuer à établir cette méthodologie de post-conflit, puisqu'on m'avait demandé de parler sur le post-conflit. Moi, je forme vraiment des vœux pour que le patrimoine ne soit pas toujours montré comme quelque chose de détruit de façon normale, mais surtout aussi qu'on ne le déconnecte pas des populations. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est ce côté carte postale qu'on déconnecte complètement des gens. Il y a des populations qui vivent là, qui ne sont pas forcément les populations de départ. Elles se sont accaparées des personnes. France Desmarais a parfaitement résumé, a dit quelque chose tout à l'heure que j'étendrai aux gens qui sont dans les camps en Syrie, en Irak, mais qui sont aux frontières. Il y a des gens en ce moment aux frontières du Kurdistan, des gens aux frontières de Syrie et d'Irak qui fuient la guerre, dont personne ne se soucie, si ce n'est quelques humanitaires débordés, on nous montre des images négatives. Beaucoup de ces gens appartiennent à la classe moyenne ou autre. Et je dois dire que dans cette affaire, et je conclurai par là, imaginons, on n'est pas très loin de la situation de 1945 où plus de 10 millions de personnes étaient sur les routes, où les Allemands étaient chassés par les Russes d'une multitude d'États. Où quelques années auparavant, on voyait des enfants. Moi, j'ai toujours cette image qu'on voit au Luxembourg de cet enfant juif qui lève les bras en l'air et qui va être exterminé et fusillé alors qu'il a 4 ans par des nazis. On est dans une barbarie très profonde, très ancrée. Elle est dans les. Je pense que cette barbarie, elle n'est pas un visage humain, contrairement à ce qu'on racontait. Elle est ancrée dans la population, elle est ancrée dans les esprits par une plus grande indifférence qui soit. Et l'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire, je crois. Au-delà des bonnes déclarations d'intention qu'on peut avoir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était personnalisé, pardonnez-moi.
Merci. Merci Bruno Favel. Merci beaucoup. Et moi, je retiendrai, avant de vous laisser aller boire un café, je voudrais quand même qu'on retienne certaines choses qui ont été dites par presque tout le monde depuis le début de cette partie de l'après-midi. Les collègues syriens ont travaillé dans le plus grand désintéressement et l'apolitisme, ça n'existe pas, le désintérêt politique total. Ils ont été neutres et pour nous, c'était très important. Habituellement, on travaille toujours avec des collègues nationaux et au début du conflit, on était très réticents parce qu'on ne voulait pas être instrumentalisés, on ne savait pas à qui on avait affaire, etc. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la DGAM, alors que bombes pleuvaient sur leur tête et qu'ils essayaient de sauver leur peau, ils prenaient leur temps à m'envoyer des photos pour la liste rouge. Et là, j'étais difficile. Je disais, j'ai besoin des mesures et des légendes. Et ils m'envoyaient tout ça. Ils m'en envoyaient 100. Je n'ai même pas tout utilisé. Et dans un total, une efficacité redoutable pour les conditions dans lesquelles ils travaillaient. Donc, vous avez raison. Ça mérite d'être mentionné. Si on a encore des héros des temps modernes, moi, j'en connais quelques-uns personnellement. Et ils sont en Syrie. On ne le reconnaît pas suffisamment. Et ils risquent leur vie tous les jours. Et ça, c'est important. Deuxième chose que vous avez mentionnée, qui sont importantes aussi, même Mme André Salvini a parlé du passé de l'Irak, on a parlé d'Haïti, il faut qu'on apprenne, pas seulement de nos erreurs, mais de nos expériences passées. Et Haïti a été un exemple où on s'est rendu compte que la coordination de la communauté internationale sur l'aide culturelle, parce que c'est la première fois qu'il y avait un plan de soutien et d'aide aux patrimoine culturel, c'était en Haïti et on s'est rendu compte qu'on a été obligé de faire une fiche de coordination parce que tous les pays sont super généreux et donnent une chose sans consulter le pays à côté. Et le pays qui reçoit, on l'a vu au Mali, il va pas vous dire « Ah non, non, des tablettes là pour mes manuscrits, j'en ai déjà, mais j'ai pas de boîte et de papier sans acide et ça, il faudrait que tu m'en donnes. » Ils vont dire oui à tout et on va se rendre compte que ça ne répond pas aux besoins. Et l'écueil, et ça, je ne voudrais pas qu'on ait de langue de bois, l'écueil qui nous atteint aussi, c'est dans notre volonté d'aider et parfois culpabilité de ne pas avoir rien fait avant. On va faire un peu de surenchère sans nécessairement répondre aux besoins et en voyant que, tu sais, il y a du business de l'humanitaire et maintenant il y a du business de la sauvegarde du patrimoine culturel. Il faut qu'on se le dise. Et nous, on l'a vu. Sur les manuscrits à Tombouctou, moi, j'ai été choquée de voir ce qu'on demandait dans les conditions dans lesquelles il était. Et j'étais persuadée, et je l'ai dit haut et fort, que les décisions qui étaient prises n'étaient pas à l'avantage des manuscrits. On ne faisait qu'enrichir un système, demander des choses qui n'étaient pas à l'avantage de leur préservation dans des conditions climatiques, etc. Donc, je pense que c'est important que, vous avez raison, Bruno, la communauté internationale, et notamment les organisations qui sont neutres et qui sont désintéressées, puissent dire, attention, essayons de coordonner les donations. Mais il faut conscientiser les pays aussi. La France, quand elle donne, elle doit parler à ses voisins. En disant, moi, je donne ça, toi, qu'est-ce que tu donnes et qu'est-ce qui manque et de quoi on a besoin. Et ça, c'est important. Et de se baser sur la demande des pays. Ils savent beaucoup mieux que nous, contrairement à ce que vous croyez, ce dont ils ont besoin. Et ça, on l'oublie encore. On a des vieux réflexes et on oublie. On pense qu'on sait un peu mieux qu'eux. Et la dernière chose que je dirais pour conclure vos présentations, qui étaient très importantes parce qu'elles s'inscrivent vraiment dans l'actualité, à propos de Palmyre et de la reconstruction. Aujourd'hui, il y a un journal russe qui m'a cité, et j'espère que je n'ai pas mis les pieds dans le plat, mais j'ai dit, wow, on ne va pas reconstruire Palmyre aujourd'hui. Ce pays est en guerre. L'État islamique est là juste depuis un an, et ça fait 5 ans qu'on n'a pas mis les pieds au pays, alors qu'on va tous se ruer demain matin parce que Palmyre est libéré. Ne laissons pas le patrimoine culturel être instrumentalisé pour des raisons autres que sa préservation. Et lorsqu'on voudra le reconstruire, etc., consultons les gens qui ont vécu et qui sont morts pour ce site. C'est eux qui doivent voir comment ils sentent Palmyre, qu'est-ce qu'ils ont besoin, et pas nous qui avons envie de faire un Walt Disney. Je vous laisse aller boire un café.
Oui, merci.
Merci.
Ouais, on va faire un Walt Disney. Ouais. J'avais pas prévu de dire ça, mais j'avais pas prévu de dire ça au départ. J'avais fait autre chose. Vous voyez mon texte, il est tout à fait autre, mais j'ai fait autre chose.
Non, mais c'est pas très bien parce que.